Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, vous voulez revenir sur un week-end d'élections sur le continent africain.
Oui, 4 élections d'envergure le même jour. Un premier tour de présidentiel au Congo, 2 second tours de présidentiel au Bénin et au Niger, et puis un référendum au Sénégal. Un moment important donc pour chacun de ces pays, où l'organisation de ces différents scrutins constitue toujours un événement décisif de la vie politique, précise le site Fassosine, mais aussi le baromètre d'une démocratie qui reste toujours, dit-il, à construire. Sans compter que si le Sénégal et dans une moindre mesure le Bénin peuvent être considérés comme les pays où il y avait le moins de soupçons sur les protagonistes, dans les 2 autres pays que sont le Niger et le Congo, là, la tension est si vive qu'une crise post-électorale n'est jamais à exclure. Les jours d'après scrutin vont donc être déterminants pour la paix et la stabilité. Alors on passera rapidement sur le cas du Sénégal, où le oui devrait remporter une nette victoire au référendum constitutionnel visant notamment une réduction du mandat présidentiel. En réalité, et de loin, le cas du Congo-Brazzaville est sans doute le plus inique, peut-on lire sur le site d'information. Guinéen, le Djeli, c'est le symbole d'une Afrique qui marche à reculons, l'incarnation d'un pays dont le destin tient à la volonté et au désir exclusif d'un seul homme, Denis Sassou Nguesso. Après un cumul de 32 ans à la tête du pays, le président, ne voulant pas se lester des délices et autres privilèges liés à l'exercice du pouvoir, avait décidé de tripatouiller la constitution pour s'offrir le pouvoir à vie. Or, paradoxalement, mais ouvertement soutenu par François Hollande, il n'a eu aucun mal à museler son opposition pour parvenir à ce simulacre d'élection. Et puis parce que lorsqu'on a violé tout ce qui est violable pour arriver à ses fins, on ne laisse pas les électeurs contrarier ses plans. Pour mettre donc toutes les chances de son côté, renchérit son confrère burkinabé, l'observateur Paalga, Sassou Nguesso a fait couper toutes les communications dans le pays pour éviter la proclamation sauvage des résultats par les états-majors des partis politiques, les médias et les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que, privés de télécommunications, les Congolais attendent donc toujours les résultats de l'élection.
Au Bénin, en revanche, Thomas Cluzel, la messe était dite avant même la proclamation hier des résultats officiels.
Oui, le soir même du scrutin, dimanche, le Premier ministre et candidat du pouvoir sortant a lui reconnu sa défaite face à son adversaire, Patrice Talon, baptisé le roi du coton. Il faut dire que le richissime homme d'affaires et tout nouveau président a longtemps financé la classe politique et notamment le président sortant. Talon a été son principal sponsor dans sa conquête du pouvoir en 2006, jusqu'à ce que les deux hommes ne se brouillent en 2012, le président Boni accusant alors Talon d'avoir tenté de l'empoisonner, rappelle le quotidien Fraternité. Criant au complot, l'homme s'était alors exilé à Paris avant finalement de rentrer donc au Bénin et de se lancer dans la course pour la succession de son ennemi, ou plutôt de son successeur désigné, car cette fois-ci, et conformément à la Constitution, le chef de l'État ne pouvait briguer un troisième mandat. C'est donc l'histoire d'un exilé politique, poursuit le journal, qui a frôlé une extradition catastrophique et qui doit désormais poser sa valise au palais présidentiel. Le compétiteur né a justifié sa réputation. Talon président, ce n'est ni un rêve, ni un canular, mais une réalité accouchée à la maternité de la démocratie.
L'alternance donc au Bénin, en revanche au Niger, la réélection du président sortant prend un arrière-goût d'inachevé et frise le coup de force contre l'opposition nigérienne.
Oui, au Niger, les élections se sont tenues dans des conditions effarantes, écrit le site. Le Djeli, d'un côté le président sortant, Mamadou Issoufou, et de l'autre son ancien allié, Mahamadou, incarcéré depuis novembre 2015 pour une affaire de trafic d'enfants ou pour des motifs politiques, selon les versions. À présent, l'enjeu, c'est la participation et c'est même le seul enjeu, en réalité, déplore l'éditorialiste. Selon les premiers chiffres appelés à évoluer, le taux de participation a atteint 56% et le président sortant l'emporterait avec 92% des voix. Sauf que l'opposition a estimé que le taux de participation était en réalité de 11% sur l'ensemble du territoire. En clair, pour elle, le peuple nigérien a rejeté massivement ce simulacre de scrutin.
Enfin, lui rêvait de se présenter à la prochaine présidentielle congolaise, mais il n'en sera rien. Hier, Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité.
Et l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo et ex-chef de guerre a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par des rebelles de son mouvement, le MLC, en Centrafrique. Entre 2002 et 2003, rappelle le site Radio Okapi, Jean-Pierre Bemba et sa rébellion occupent la partie nord-ouest de la RDC, sauf que ces hommes traversent alors régulièrement cette frontière pour aller aller secourir le président de la Centrafrique, menacé de coup d'État. Un an plus tard, Bemba retire ses hommes. Patassé est effectivement renversé par le coup d'État de François Bozizé. Seulement voilà, les troupes de Bemba sont accusées de plusieurs exactions sur les populations civiles. Pendant 5 mois, le temps qu'a duré cette expédition, précise le site de la BBC, les rebelles du MLC auraient tué au moins 100 de civils et violé des femmes, en plus de se livrer à des actes de pillage. Depuis, Jean-Pierre Bemba était donc poursuivi non en tant qu'auteur ou co-auteur, mais en tant que chef militaire, en vertu du principe de la responsabilité du commandant. La procureure de la CPI a estimé que l'ancien vice-président était pénalement responsable des crimes commis par ses troupes dans un pays tiers. À présent, il risque jusqu'à 30 ans de détention ou la prison à perpétuité.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, 7h27 sur France Culture.